France Inter, le 18-20.
On nous annonçait donc pour aujourd'hui une grosse mobilisation à l'initiative de la CGT, avec Solidaires notamment, des organisations jeunesse et aussi le soutien de la France Insoumise. C'était surtout la première mobilisation depuis le début de la crise des Gilets jaunes qui a un peu laissé, au début en tout cas, on verra jusqu'à quel point, les syndicats sur le carreau, première avec les Gilets jaunes également, parce qu'il y a eu du jaune dans les rassemblements sous les drapeaux rouges de la CGT, mais peu de grévistes en réalité, 5% dans l'éducation nationale, pas de problème majeur dans les trains, les métros ou les bus. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Est-ce que la défiance mutuelle est terminée? Parce qu'il y en a une au début, et notamment sur un certain nombre de revendications de chacun. À quoi aura servi cette journée? La CGT dit qu'elle veut faire des mardis de l'urgence sociale. On verra bien si cette idée tient encore et encore une fois ce qu'elle veut dire. Derrière, il y a aussi amplifier la crise, faire tourner la crise vers autre chose ou sortir de la crise. Pas sûr, au fond, qu'on y voit réellement plus clair, ou peut-être que nos invités pourront nous dire le contraire, ça n'empêche pas en tout cas de poser la question. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Adrien, bonsoir, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu, Adrien. Est-ce que vous y voyez plus clair? On vous écoute.
Ben justement, c'est l'objet de ma question. Bonsoir. Moi, j'étais à la manifestation aujourd'hui, à l'appel de la CGT. Et j'ai défilé avec la CGT, je suis allé défiler aussi avec les Gilets jaunes. Et c'est vrai que des deux côtés, le son n'était pas le même du côté des Gilets jaunes. Beaucoup de choses sur le RIC, beaucoup de choses anti-Macron. Du côté de la CGT, un message plus social, la défense des services publics, la défense des droits des salariés. Et la question que je me pose, moi, c'est sur quelles revendications communes, parce qu'il existe des revendications communes, une envie commune de défendre les services publics, mais sur quelles revendications communes, en termes de droits sociaux, qui pourraient gagner, qui pourraient mobiliser le mouvement social. Quoi on pourrait se concentrer?
Justement, on va essayer de répondre à votre question ici, mais Adrien, du coup, moi j'ai une curiosité. Vous avez manifesté pourquoi, du coup?
Moi, j'ai manifesté parce que d'abord, je pense qu'un mouvement social fort pourrait par exemple amener une revalorisation du SMIC. Moi, je suis travailleur dans le privé, dans une profession où la majorité des gens sont au SMIC. Donc, je suis dans le petit commerce. Et donc, pour moi, c'est une vraie revendication qu'on pourrait avoir commune. Je pense aussi qu'il y a la réforme des retraites qui va arriver. Et ça, c'est un vrai danger pour les jeunes travailleurs dont je fais aussi partie et qui auront peut-être plus de retraite plus tard. Et aussi pour les retraités d'aujourd'hui qui voient, on le voit, les petites retraites, les gens qui perdent, et puis la PSG qui est venue manger encore le pouvoir d'achat.
Comme ça, c'est clair. Merci beaucoup, Adrien. Merci pour cette entrée en matière et cette première question qui résume déjà beaucoup de choses pour vous répondre et puis pour discuter ensemble, surtout jusqu'à 20h. Fabrice Sanjaillet, là, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Roland Quayrol est également avec nous. Bonsoir, monsieur Quayrol.
Bonsoir.
Politologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF. Votre dernier ouvrage s'appelle Le président sur la corde raide et c'est publié chez Kalman Lévy. Et puis, Yael Gauze du service politique de France Inter. Et là également, ça nous permettra d'essayer de comprendre à la fois ce qui s'est passé cet après-midi, si on converge ou pas, et d'essayer de réfléchir plus loin avec les uns ou les autres. Fabrice Sanjaillet, d'abord, c'est intéressant parce qu'Adrien y était.
Oui,
il sait pourquoi il y était. Oui. Et en même temps, il a bien vu qu'il y avait deux lignes parallèles, en fait, pendant ces manifestations. Lui, il est parisien, donc il était au cortège parisien.
Également, j'étais cet après-midi au cortège parisien.
Vous avez vu deux lignes parallèles, vous aussi, alors?
J'ai trouvé des convergences. J'ai vu, y compris, donc, un cheminement qui était le même, un cortège qui a cheminé de même point de départ au même point d'arrivée.
C'est déjà ça de prix.
C'est déjà une convergence pour entrer en matière, non, sortie de l'humour. Effectivement, je pense que, la CGT, donc, est sur des revendications sociales, mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que cette question des augmentations de salaire. Le SMIC, mais aussi l'ensemble des salaires, il n'y a pas le SMIC qui est bas. La question des retraites, la question d'une fiscalité juste, d'une justice donc fiscale, elle est également portée aujourd'hui de plus en plus par les Gilets jaunes. Et c'est ce qui permet la convergence.
Mais attendez, qui s'est rallié à l'autre, du coup, quand je vous entends?
Je ne parle pas de ralliement.
Est-ce que c'est eux qui penchent plus vers votre côté, qui ont plus le sentiment qu'ils ont besoin de vous aujourd'hui, ou est-ce que c'est vous, pardon de le dire comme ça, qui êtes obligé de leur courir derrière à ce stade-là? Qui penche vers qui à ce moment-là?
Je pense que les revendications convergent de plus en plus. Même effectivement, si la question du RIC ou la démission de Macron ne sera pas un slogan syndical. Nous, on veut changement de politique sociale, de politique économique et pas une question de qui préside. Mais ça, c'est pas un obstacle à mener des convergences de lutte sur un socle, j'allais dire, de revendications sociales partagées sur augmentation des salaires, sur le retour de l'ISF, sur plus de services publics, sur une répartition autre de l'impôt. là, c'est des domaines où on peut se retrouver.
Et vous l'avez dit, dans les chemins de non-convergence. Alors, vous avez dit effectivement, Macron démission, selon vous, c'est pas un slogan. En gros,
c'est pas un slogan, c'est pas rédhibitoire. Si vraiment je parle de, vous savez, ce mouvement, il n'y a pas de leader en tant que tel qui organise les Gilets jaunes. C'est hétéroclite et différent.
Ni rédhibitoire, ni préalable.
Voilà. C'est hétéroclite sur les ronds-points et les localités. Mmh. En clair, la CGT ne manifestera pas sur des valeurs qui prônent l'homophobie, qui prône la chasse à l'étranger, la peur de l'étranger. Voilà. Alors, ces questions-là, l'anti-migrant, ce n'est pas acceptable et pas possible pour la CGT de manifester à côté de ces gens-là.
Alors, deux choses, justement, avant de donner la parole à nos autres invités. L'autre panneau qu'on voit beaucoup et toujours chez les Gilets jaunes, c'est le fameux RIC. C'est pas non plus votre tasse de thé, pardon, à la CGT. Qu'est-ce que vous en faites de ça avec les Gilets jaunes?
Nous, ce qu'on entend, c'est à travers le RIC, c'est comment les citoyens peuvent davantage s'exprimer. La question de la citoyenneté, qu'elle soit, j'allais dire, dans la démocratie quotidienne, qu'elle soit aussi à l'entreprise, et là, on peut discuter de ces droits-là. Effectivement, aujourd'hui, une assemblée qui n'est pas représentative des catégories sociales. Il y a très peu d'ouvriers à l'assemblée. C'est pas pour autant qu'on prenne une dissolution, mais il y a des choses à améliorer. Donc le RIC, c'est un vrai besoin de compter, de dire « je compte », d'expression citoyenne. Mmh. En même temps, nous pensons, nous, que c'est pas forcément la modalité adaptée.
Roland Quayrol, est-ce que vous avez une convergence, quelque chose qui se passait en tout cas aujourd'hui entre le mélange des drapeaux rouges de la CGT, des gilets jaunes,
comme dirait M. Angeli, il y a un cheminement, mais le cheminement est assez est assez long et il a connu bien des étapes. Dans la deuxième quinzaine de novembre, le secrétaire général de la CGT, M. Martinez, était pas très chaud pour faire des choses avec les gilets jaunes, pas seulement sur les thèmes xénophobe qu'a signalé
parce qu'effectivement il y avait quand même beaucoup ça aussi.
Mais il y avait aussi des raisons de fond sur le social. Il nous avait dit par exemple que ces gens qui veulent supprimer les cotisations sociales, on peut pas être d'accord avec eux puisque nous c'est la base même de l'existence de la sécurité sociale. Donc on était très loin. Et puis petit à petit, un certain nombre de gilets jaunes, pas tous, un certain nombre de gilets jaunes ont chargé leur programme, ce qui n'en était pas encore un, de préoccupations sociales, dont un certain nombre de revendications qui sont celles depuis longtemps, soit de la plupart des syndicats français, soit en tout cas de la CGT. Donc ça devenait assez possible de regarder ce qui se passait du côté des Gilets jaunes, d'autant qu'un certain nombre de membres de la CGT étaient ici ou là sur les ronds-points, notamment parmi des militants venant de l'extrême-gauche. Donc on pouvait pas être inattentif à quelque chose dans lequel des membres de la CGT étaient eux-mêmes, si je me permets, parce que je vois du mal partout, a fortiori pas à quelques mois d'un congrès confédéral où il faut quand même ménager les uns et les autres et trouver une ligne qui soit acceptable aussi à ceux qui se veulent plus contestataires que la direction de la centrale. Tout ça a fait que on s'est dit, après tout, ces gilets jaunes dans l'état où ils sont maintenant, et pour ceux qui ont justement appelé à cette manifestation d'aujourd'hui, dont Monsieur Drouet, ça vaut le coup de les avoir. Le résultat, c'est des manifestations où il n'y a pas toujours un monde fou. 35 000 d'après la CGT à Paris, mais 18 000 d'après la police. Quand on a un organisme indépendant qui fait les mesures, il est en général, ces derniers mois et ces dernières années, plus proche de la police.
14 000 à Paris, dit occurrence.
Voilà, vous voyez, c'est en général, occurrence et la police sont pas très loin. Donc c'est pas une grosse manif de la CGT. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour mobiliser dans ces moments où c'est pas les syndicats qui ont tenu la dragée haute aux autres organisations. Donc, moyen sur le plan quantitatif, mais avec des images de pas mal de villes, notamment en région, dans lesquelles les taches de gilets jaunes sont significatives. Ici ou là, c'est quelques dizaines, mais des fois, c'est quelques centaines. Ça veut dire que là, il y a en effet un cheminement qui est allé jusqu'à un coude à coude des gilets rouges et des gilets jaunes, qui est une première.
Yaël.
Ce qui s'est passé aussi, parce que l'on parle de la CGT qui se raccroche au wagon des gilets jaunes, mais il y a
ça
aussi.
C'est vous qui le dites.
Non, c'est une expression, mais les insoumis.
C'est un peu le cas quand même.
Les insoumis aussi. Parlons de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi est allé chercher Éric Drouet, qui lui-même est allé chercher la CGT. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. C'est un trio CGT, insoumis, gilets jaunes, avec quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé sur le mouvement des gilets jaunes? Il a survécu aux vacances de Noël, et ça, c'était pas quelque chose d'évident. Il a survécu aux annonces du 10 décembre sur le pouvoir d'achat d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est ce qu'ont observé notamment les parlementaires de la France insoumise, qui se sont dit, mais au mois de janvier, tous les samedis, il y a quand même du monde. un socle de 50, 60, 70 000 manifestants tous les samedis. Ça veut dire qu'il reste quelque chose, qu'il reste de la braise pour après. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la mobilisation, elle est relativement faible. Qu'est-ce qu'aurait dit Nicolas Sarkozy? En 2009, il disait désormais qu'il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Aujourd'hui, c'était censé être l'urgence sociale et le blocage total du pays. On en est loin. Mais c'est pas ça que recherchent les insoumis, par exemple. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Le carburant pour l'après-débat. Aujourd'hui, on est ballotté par des ballons d'essai en tout genre. Le débat est encore un peu flou, on ne sait pas comment on va en sortir. Par un référendum, par une réforme fiscale, par une réforme des institutions. Pour l'instant, on est ballotté au gré des faits d'annonce, de ballons d'essai du gouvernement. Qu'est-ce que le pari que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est lequel? Ou que François Ruffin fait? C'est qu'une fois, ils font le choix de ne pas être dans le débat national, de ne pas être dans le grand débat. Et donc si la déception, si c'est déceptif à la fin, alors ils pourront être avec la CGT, avec les Gilets jaunes, le réceptacle d'une colère sociale. C'est pour ça qu'ils n'entrent pas dans le débat aujourd'hui. Et c'est pour ça que toute la campagne qui va commencer pour les européennes, pour eux, va être sous le sceau du social et des Gilets jaunes.
Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Philippe. On vous écoute.
Oui, donc moi je suis toulousain, j'étais à la manif tout à l'heure. On était nombreux. Et moi j'étais avec mon Gilet jaune et mes badges CGT. Ce qui m'a valu d'ailleurs quelques interpellations, je vous dirai plus tout à l'heure.
Ah bah oui, ça nous intéresse.
Mais oui, mais moi ce que je veux dire, moi ça fait 40 ans que je manifeste. Je manifeste gentiment, d'un point A à un point B, et on me demande l'autorisation, on est bien gentil, et on fait ça, voilà, souvent on n'obtient pas grand-chose des manifestations et des jours de grève que l'on a fait. Mais moi ce que je veux dire aujourd'hui, il y a quand même un espoir. Parce que les Gilets jaunes, eux, ça fait 4 mois à peu près qu'ils manifestent, que nous manifestons, mais on veut la même chose. Eux, ils appellent Macron, ils veulent la tête à Macron, nous, on veut la tête au capitalisme. Mais on a la même chose, le but c'est le même.
Alors pardon de vous poser la question comme ça Philippe, moi je voudrais savoir si vous avez mis des badges CGT sur votre gilet jaune ou si vous avez mis un gilet jaune sur vos badges CGT. Je dis ça sans plaisanter, je suis pas du tout en train de faire un mot, mais parce que moi ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce mouvement depuis le début, c'est que quand ça va pas dans une entreprise, les salariés de fait ont le réflexe d'aller voir les syndicats. Là c'est pas du tout ce qui s'est passé. Oui. Quand les choses ne vont pas bien, là le réflexe c'est de se tourner vers l'État, donc là en l'occurrence vers le rond-point, mais d'interpeller l'État. Donc vous typiquement, par exemple, qui commence par rapport à l'autre? Est-ce que c'est le badge CGT, donc celui qui parle du patron et de l'entreprise, ou est-ce que c'est le gilet jaune qui parle à l'État?
Et je vous dirai les deux, moi, en général. Je m'explique. Tout à l'heure, donc, j'ai été interpellé parce que dans la manifestation, j'ai pris la parole plusieurs fois en disant « Mais où vous êtes, mes camarades, le samedi ?» Puisque le samedi, il y a des manifs des gilets jaunes. Et donc ça a provoqué des discussions. Et je veux dire, on a des discussions qui, en fin de compte, où on s'est rendu bien compte, les uns et les autres, qu'on avait le même objectif. Voilà. Et peu importe que l'on soit gilet jaune ou que l'on soit de la CGT, on va dans le même sens. Et moi, je vais vous dire une chose. Ce qui m'indigne, et parce qu'au début, moi, j'étais pas un gilet jaune, ce qui m'indigne profondément, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres. Ce n'est pas possible que ça existe dans notre société. Et aujourd'hui, les gens, ils doivent pouvoir, avec leur salaire, pouvoir se nourrir, nourrir leur famille, avoir un toit, pouvoir sortir, avoir des activités. Et aujourd'hui, les gens, en général, et moi, je ne suis pas dans ce cas-là, mais les gens avec qui je discute, c'est pas le 30 du mois qu'ils ont des problèmes. C'est même plus le 15. C'est très rapidement après leur paye.
On entend ce que vous dites, Philippe, parce que, pardon, hein, c'est des choses qu'on a effectivement déjà beaucoup entendu depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes. Mais moi, Philippe Angéli, pardon, je me pose toujours la question, pourquoi ces gens comme Philippe et ceux dont ils parlent ne se sont pas tournés directement vers vous? À quel moment se sont-ils dit, les syndicats, ça sert à rien pour ça? C'est la raison pour laquelle on disait tout à l'heure avec Yael que vous courez un peu derrière ce mouvement depuis le début et que là on essaye effectivement de regrouper tout le monde. Mais pourquoi est-ce que des gens comme Philippe et comme d'autres, leur premier réflexe, c'est pas de se tourner vers vous?
Aujourd'hui, mes auditeurs, Philippe l'a dit, donc on est sur des mouvements interprofessionnels qui n'ont pas débouché sur de grandes mesures sociales depuis plusieurs années. On est aussi, il y a des raisons à ça, y compris sur la répression syndicale, la discrimination syndicale, on est aussi sur un déficit d'implantation dans les entreprises. Moi, je vois sur les ronds-points, on y est allé parce que on est quand même allé discuter à la rencontre. On trouve beaucoup de femmes isolées, mm-hmm. avec des petits salaires, avec donc des temps partiels, donc des pensionnés aujourd'hui, des retraités qui arrivent plus avec les pensions qui baissent. Donc voilà, tout un public qui normalement notre champ, je l'appelais comme ça, de syndicalisation. Mais aujourd'hui,
et la CGT,
oui, on le reconnaît, mais lorsqu'aujourd'hui en France, il y a 8% de syndiqués au total, donc après, si je fais le total, public, privé, bon, un peu plus, on voit bien qu'on ne rencontre pas l'ensemble des salariés. Et donc, il faut bien retourner, rencontrer ces salariés sur leurs problèmes du quotidien. Mais c'est ce que la CGT a fait des ronds-points, sur les ronds-points, il y a des unions départementales qui sont là où c'était possible, en manifestation le samedi. Il y a des échanges qui se sont faits, même si aujourd'hui on a vu une autre dimension. Mmh. On n'a pas attendu le 5 février, là où ça a été possible. Et effectivement, on est interpellé pour comment ça se fait, comment on doit faire pour être davantage à l'écoute et en lien avec ces salariés-là, ces populations-là. Et d'autre côté, on voit que les Gilets jaunes aujourd'hui s'interrogent sur les modalités d'action.
Mais
et
voilà,
disent qu'on a besoin des organisations syndicales et de la grève aussi pour gagner.
Et on s'interroge aussi, Roland Quirol, sur les formes d'action, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, comme vous le disiez, effectivement, il n'y a pas énormément de gens dans la rue, mais effectivement,
on voit qu'il y a plusieurs manifestations
et que les couleurs se mélangent effectivement dans les cortèges. En revanche, il n'y a pas de grève, ou très peu. Alors oui, il y en a une ce matin sur Radio France. Donc,
me semble.
La défense du service public, parfois, c'est quand le service public est muet, ce qui a son petit paradoxe en soi. Mais 5% dans l'éducation nationale, très peu de problèmes SNCF, très peu de problèmes RATP. Donc il y a un mode d'action aussi qui est interrogé là et qui est obligé de secouer les syndicats, non ?
Oui, et il y avait chez les Gilets jaunes, parce que vous disiez comment ça se fait qu'eux-mêmes ont pas demandé plutôt aux syndicats de s'occuper d'eux, c'est un milieu qui était très massivement hostile à toute forme de représentation. Et les syndicats en prenaient autant que les partis politiques ou les élus sur les ronds-points. Monsieur Martinez a raconté lui-même, mais ça dépendait des ronds-points. Donc, il a raconté lui-même qu'il était demandé sur un rond-point, il y est allé, mais c'était le soir, c'était plus les mêmes, ils lui ont dit de pas rester. Il y a ce mélange de gens, et puis quoi ? De mélange de gens aussi très politiquement différents les uns des autres. C'est pas un hasard s'il y a eu au départ beaucoup de grogne des petits contre les gros, de arrêtons les taxes et les cotisations sociales. C'est qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont été marqués aussi par les courants d'extrême droite, mmh, et il faut évidemment la politique n'est pas au centre de tout, mais on peut pas faire une unité d'action avec des gens qui sont si loin de l'univers idéologique même de la CGT. Donc, il y a des gilets jaunes avec lesquels il est possible de faire des pas en avant, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, mais croyons pas que c'est l'ensemble des gilets jaunes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des gens qui sont extrêmement réticents, et à la CGT et chez les gilets jaunes, devant ce genre d'alliance.
Les gilets jaunes ne sont pas tous solubles dans une forme d'organisation, y compris syndicale, Fabrice Angéli, et ça, ceux-là, vous ne les accrocherez pas, ou les accrocherez-vous ? Cherchez-vous à les accrocher ou pas, en fait ?
Nous, on cherche à accrocher donc les salariés via les revendications. Ça a été dit, c'est illustré. On peut pas raisonner gilets jaunes comme un corps organisé. Pour prendre le thème, c'est pas une organisation en tant que telle. Donc du coup, vous pouvez pas faire des intersyndicales classiques, des appels communs, c'est très compliqué. Vous pouvez le faire avec certains collectifs qui vont partager, mais du coup, vous avez notre collectif qui est pas d'accord. Donc voilà, ça
se travaille. Mais vous dites accrocher les salariés, moi je trouve ça intéressant, parce que précisément le problème c'est peut-être ça. C'est que
je trouve qu'aujourd'hui
vous les syndicats vous parlez aux salariés dans votre forme.
Il y a beaucoup de gens qui sont pas des salariés.
Exactement.
Oui, mais bon, lorsqu'on parle des salariés, c'est un sens large. Ça veut dire que pour nous, voilà, de plusieurs choses. Donc un retraité est pour nous, un salarié. Oui, un demandeur d'emploi, c'est un salarié, y compris lorsqu'on prend les travailleurs indépendants qui n'ont pas un statut de salarié, 9 sur 10 touchent moins que les minima sociaux, les auto-entrepreneurs. Et donc ça, effectivement, c'est une catégorie sur laquelle on doit aller. Et de même, lorsqu'on cible les entreprises, il faut qu'on soit précis. Ce qu'on cible, nous, c'est les donneurs d'ordre, les entreprises du 440. C'est pas le petit patron qui peut avoir, pour beaucoup, les mêmes difficultés qu'un salarié.
Yaël, rapidement.
Ouais, ce qui me frappe, le parallèle, est-ce qu'on peut faire le parallèle, monsieur Angéli, entre ce que vous viviez à la CGT et ce que vit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, par rapport à ce mouvement social? Franchement, c'est intéressant parce que combien de marées humaines Jean-Luc Mélenchon a-t-il voulu mener depuis 2017, qui se sont terminées en marée basse? Combien de manifs pot-au-feu qui n'ont pas eu le succès escompté? Est-ce que c'est lié aujourd'hui à de nouvelles formes de militantisme, d'engagement à la carte, au cas par cas? On se mobilise sur le climat et puis on revient après sur d'autres mobilisations qui ne sont plus les mêmes. Comment vous expliquez ça? Qu'aujourd'hui, quand un leader politique comme Jean-Luc Mélenchon dit « Je veux une marée humaine sur les Champs-Élysées », elle n'arrive pas.
Mais parce que ça se travaille, ça se décrète pas. Voilà. Et donc, voilà, notre angle d'attaque et de vision, c'est pas bien celle-là. Après, effectivement, il y a des sujets aujourd'hui qui font des mobilisations larges. Donc, la défense des droits des femmes, etc. Donc, on voit que c'est des périmètres, donc.
Plus sectoriels.
Pas plus sectoriel, donc plus large, mais parce qu'on touche aussi à de la sociologie, on touche à d'autres dimensions qu'aujourd'hui l'affrontement sur le lieu du travail. Mais moi, ce que j'en vois par rapport à ce qui est dit, c'est que si je prends aujourd'hui, on dit les syndicats, aujourd'hui, l'initiative, elle revient à la CGT, rappelons-le, oui. Dans un cadre d'une unité syndicale, loin d'être créé ce cadre d'unité syndicale. Et on voit qu'aujourd'hui, la CGT, elle est pas marginalisée, à la fois dans les cortèges, avec des populations.
Vous êtes un petit peu seul. Demain soir à Matignon, il y a tous les partenaires sociaux. Tous les partenaires sociaux sont à Matignon demain soir.
Oui, mais il ne sortira rien.
Mais oui, mais pourquoi vous n'êtes pas dans... Pourquoi vous n'y allez pas ?
Parce que la CGT, justement, on parlait en introduction des mardis de l'urgence sociale. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on appelle le véritable débat. Ça veut dire qu'on va ouvrir nos unions locales, qu'on va le faire sur les entreprises, qu'on va faire sur les places publiques. On va demander aux citoyennes de s'exprimer vraiment et dire ce qu'ils veulent. Vous savez, un des véritables débats où déjà on dit on touchera pas.
Vous savez qu'il existe
à l'ISF,
déjà.
On ne changera pas de politique.
Mais alors,
les réformes.
D'accord. Donc,
je pense que les résultats sont déjà.
Donc il y a le grand débat, il y a le vrai débat qui a été lancé il y a quelques jours, et vous allez lancer le véritable débat
alternatif.
On l'a lancé.
Et après il y aura le vrai véritable débat. Honnêtement, enfin je veux dire, j'entends bien que vous marquez votre position, mais pour aller où en fait? Qu'est-ce qui sort de ce véritable débat? Qui dit quoi et qui est porté comment derrière?
Mais ça sera les salariés qui vont indiquer. Donc ce véritable débat, il est pour poser les revendications, comment on veut vivre ensemble, quelle société, quelle fiscalité, quel service public. On peut pas se contenter d'une question qui est de dire OK, moins d'impôts, dites-nous quel service public vous voulez supprimer.
Mais donc CFDT,
aujourd'hui, on voit l'hôpital
CFDT,
aujourd'hui, on voit les écoles
FO,
aujourd'hui, on voit les transports en commun aujourd'hui.
Les autres centrales syndicales qui vont à Matignon demain font le mauvais débat?
J'en sais rien. Il faut leur
poser la question. Je vous pose la question.
Il faut leur poser la question. Moi, je dis ce qui va en sortir. Si aujourd'hui, il n'y a pas, donc, une expression qui se matérialise par un rapport de force, il ne sortira rien de ce débat-là. Et ce débat, il faut le mener avec la population, avec les citoyens, avec les salariés. Vous savez, aujourd'hui, des one-man shows de 6 heures devant les maires, j'appelle pas ça un vrai débat.
Mais il y a eu d'autres contributions quand même, monsieur Angéli. Il y a eu les one-man shows du président, effectivement, mais il y a réellement des contributions de la part des Français.
Oui, mais ça fait un moment qu'on exprime
débats,
des revendications
sur les
et
sites
des propositions.
Et
vous savez, ça fait un moment qu'on exprime des revendications, des propositions que le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre n'ont pas écouté. Voilà, on a des propositions, on les exprime sur le montant du SMIC, sur le financement du service public, sur comment on équilibre la fiscalité, comment on permet à tous d'accéder à la retraite, y compris sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi. La CGT, elle a des propositions qu'elle met en débat. Aujourd'hui, force est de constater que rien n'est repris.
Allez, je veux qu'on oublie le standard et qu'on oublie Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir France Inter, bonsoir à tous.
Soyez le bienvenu Michel, on vous écoute.
Alors, moi, ma remarque, c'est par rapport aux syndicats. Les syndicats ont toujours été très forts pour défendre la fonction publique et puis dans des grosses sociétés comme Renault ou comme d'autres. Mais par contre, dans des PME, on n'a jamais trop vu de syndicalistes dedans qui étaient prêts à mouiller la chemise pour défendre le pouvoir d'achat de, on va dire, de petites gens. Et le porte-à-faux aussi a été fait par rapport à la loi travail. La loi travail a fait sauter le CDI, quoi. Et c'est ce qui nous amène à des rémunérations qui ne sont plus à la hauteur, où les gens galèrent pour gagner leur vie, quoi.
Merci Michel pour cette remarque ou cette question. Fabrice Angéli, ce qui vous dit en creux, c'est aussi, oui mais vous les syndicats aujourd'hui, vous représentez les grosses entreprises effectivement. Mais nous, PME ou TPE, donc ceux qu'on voit effectivement sur les ronds-points particulièrement, nous, on n'est pas représentés par ces syndicats-là, puisqu'on ne les trouve pas dans nos entreprises.
Mais effectivement, on trouve moins les syndicats dans les entreprises-là, mais je sais, pour un certain nombre de raisons, parce que les syndicats, c'est pas quelque chose de virtuel qui tombe du ciel. Les syndicats, c'est l'organisation des salariés qui décide de se mettre ensemble, donc d'aller à une élection, par exemple, dans une instance représentative des personnels, et c'est aujourd'hui les comités sociaux et économiques avec une étiquette syndicale. Donc c'est ça, ça vient pas de l'extérieur. Par contre, oui, il faut qu'on se déploie davantage dans les PME, dans les TPE, mais c'est ce qu'on commence à faire aujourd'hui avec des succès électoraux dans des petites entreprises. Et lorsqu'on porte, nous, la question du donneur d'ordre et des sous-traitants, beaucoup de salariés de l'entreprise, en fait, subissent des conditions de travail, des conditions de salaire qui sont dictées par le donneur d'ordre, hein, y compris directement ou indirectement. Et donc, nous, on prend en compte la globalité. On ne se retranche pas sur un certain secteur.
Roland Quirol, c'est intéressant, cette journée qui était une journée de mardi, en fait, et les manifestations se font le samedi. Jour non travaillé, mardi, jour travaillé. Est-ce que ça ne dit pas beaucoup de choses, en fait, peut-être aussi sur la différence entre ce que fait sortir un syndicat et ce que font sortir des mouvements comme ceux des Gilets jaunes?
Oui, c'est un type de risque différent pour l'engagement, parce que éventuellement perdre sa journée de travail pour aller manifester, a fortiori pour aller faire grève, c'est pas pareil que d'attendre le week-end où on est de toute façon libre pour aller sur son rond-point ou aller à une manif à Paris. Donc oui, il y a cette différence, et oui, moi, je voudrais insister sur cette histoire de la faible représentation syndicale dans les PME et encore plus dans les TPE. C'est un vrai problème du syndicalisme français qu'il n'arrive pas à résoudre depuis longtemps. Et j'allais presque dire de moins en moins, parce que la courbe des adhésions ces dernières années n'est pas bonne. Et là, il y a un océan de militantisme à faire pour aller convaincre les gens, malgré en plus la division syndicale. Et malgré l'image de tous les représentants qu'on a de plus en plus chez les jeunes travailleurs, d'aller les convaincre que ça vaut le coup d'être représenté par des syndicats dans des entreprises où souvent ils se sentent plus représentés par les petits patrons que par les syndicats qu'ils voient à l'extérieur. Donc là, on a quelque chose qui correspond à une image du syndicalisme français qui est une réalité assez dure.
Yaël.
Et pardon d'insister, mais le gâteau de la représentativité syndicale faiblit. Ben, à l'intérieur de ce gâteau, c'est la CFDT aujourd'hui qui mène la danse. Et ça, pour la CGT, comment vous gérez aujourd'hui cette rivalité-là? Parce qu'aujourd'hui, la CFDT, elle est...
Dans le privé, on va le prendre comme ça. Les élections de fonction publique ont confirmé la première place de la CGT, les élections de TPE également. Hein. Et là, on a les élections, pour être un peu technique, les élections professionnelles, donc les conseils socio-économiques qui se renouvellent. Donc on verra en 2020, et on y travaille, ça s'explique tout simplement par le différentiel. La CGT, on l'a dit, on a, pour le faire simple, on a donc un delta de moins 500 000 salariés qui ne peuvent pas voter pour la CGT. C'est pas une élection nationale comme une élection politique où vous votez pour le président. Dans n'importe quel village de France, on peut voter sur un bulletin Macron, Mélenchon, ce que vous voulez. Donc on a le choix des bulletins. Là, il y a 500 000 salariés qui n'ont pas de bulletin CGT dans l'entreprise. Et ça, effectivement, il faut qu'on y remédie. Donc je partage, oui, il y a un déficit d'implantation à gagner, mais en même temps...
Un déficit de leadership aussi de Philippe Martinez, quand même, dans cette histoire?
Moi, je pense pas, c'est pas une question de leadership. Hein. Et puis, il y a des raisons objectives. Lorsque la première raison pour un salarié de pas se syndiquer, c'est la peur de la répression ou de la discrimination dans son évolution de carrière. Vous savez, il y a pas mal d'endroits, donc dans la filiale low cost d'Air France, je ne sais pas citer le nom, hein. On a implanté un syndicat pour aller aux élections. Qu'est-ce qui se passe? 2 jours après, vous avez les représentants du personnel qui sont licenciés. C'est ça la réalité aussi sur le terrain qu'il faut voir. Et tant qu'on ne remédiera pas à ça, on aura effectivement, c'est un écueil, notamment encore plus dans les entreprises, à surmonter pour être à l'écoute des salariés. Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on en revienne à des fondamentaux, être aussi plus près du quotidien. Cette question de la fin de mois qu'on n'arrive pas à boucler, c'est une question, j'allais dire, frontale, sur laquelle la CGT doit prendre le corps.
Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à Paris, Marc, on vous écoute.
Oui, je voulais simplement dire que je suis assez étonné de voir la tentative de la part du CGT de s'allier avec les Gilets jaunes, parce que pour moi, ce sont les opposés. Et dans le sens où les gens qui étaient sur les ronds-points, qui étaient sur les Champs-Élysées au mois de novembre, comme moi, Ils sont plutôt contre la CGT et plutôt contre les grands groupes. C'est pas uniquement la CGT, mais contre ce type d'ouvrier syndiqué qui a tout. Il a tout, il a la sécurité de l'emploi, il a plein de bonnes conditions, alors que les gens de gilets jaunes, par définition, c'est tout l'opposé, la précarité. Et la grève qu'a fait la CGT avec les cheminots l'été dernier a été très mal appréciée par les Français, parce que ça a duré très longtemps, et on a trouvé que ce n'était pas justifié, et que globalement, ce sont des ouvriers qui ne veulent pas s'adapter à la vie actuelle, notamment dans ce qui concerne la retraite avant 60 ans. Mmh. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Et Marc, du coup, j'ai une curiosité. Pardon.
Les gilets jaunes et les CGT, pour moi, c'est comme de l'huile et de l'eau. Pardon. Ils ne se marieront jamais.
Et j'ai quand même une curiosité, Marc, parce que vous aviez dit que vous étiez aux premières manifestations des gilets jaunes, si j'ai bien compris. Pourquoi vous n'y êtes plus aujourd'hui, par exemple? Est-ce que vous êtes...
Je suis allé au début, au mois de novembre, deux fois.
D'accord.
Et après, j'ai abandonné puisque je ne voyais pas l'intérêt. Et j'ai abandonné parce que je trouve que le gouvernement de Macron a fait ce qu'il fallait. Notamment sur la hausse des cotisations pour les retraités que je suis, pour la hausse de l'essence, etc. Voilà.
D'accord.
Moi, j'étais satisfait. Je m'arrête là. Et je trouve que la CGT aujourd'hui, ce qu'ils font avec les gilets jaunes, ce que les quelques-uns qui continuent à s'appeler gilets jaunes, bon, bien sûr, c'est un vaste mouvement, assez ambigu même, mais en tout cas, pour moi, la vaste majorité des gilets jaunes sont satisfaits avec ce qu'ils ont, et les gens qui restent à jouer le jeu, à jouer les grèves ou à jouer les manifestations semaine après semaine, pour moi, ça n'a pas tellement de sens.
Merci beaucoup.
Ils se joignent avec les autres.
On vous a entendu, Marc. Pardon de vous interrompre, mais il faut laisser de la place aussi pour les autres. Et on vous a bien entendu. On a entendu que vous ne compreniez pas bien comment ces deux chemins pouvaient se rejoindre à un moment. Et surtout, ce que j'entends dans la question de Marc, Fabrice Angéli, c'est aussi les salariés hyper protégés d'un côté, en fait, protégés encore plus par les syndicats. Et puis les autres, ceux qui sont abandonnés. Et c'est cela qu'on a trouvé avec un gilet jaune sur les ronds-points.
Les salariés, enfin vous savez, la CGT, elle organise les demandeurs d'emploi. Donc voilà, on est aussi aux côtés de ces salariés. Elle organise, c'est la seule organisation syndicale qui a des comités de précaires et de privés d'emploi. La précarité, on l'a portée, y compris dans l'ensemble des réformes. La CGT, lorsqu'elle a combattu la réforme du Code du Travail, aussi bien sous El Khomri que sous Macron, avec les ordonnances, elle visait bien à lutter contre la précarité.
Mais cette
précarité.
Vision qu'on peut avoir de vous, vous la mais comprenez
je pense
ça
que
ou vous la trouvez purement injuste en fait?
Cette vision, mais il y a un lien... Ça a été dit, lorsqu'on prend statistiquement, entre le fait donc d'avoir une stabilité dans l'emploi et la syndicalisation. C'est un lien, lorsqu'on le prend statistiquement, c'est indéniable. Mmh. Et je l'ai dit qu'il faut qu'on arrive à parler davantage, à convaincre ceux qui sont en hyper précarité. Donc il n'y a pas un désintérêt. Il y a donc des freins, des écueils à surmonter pour que le discours puisse porter. Il n'y a pas les précarés. Vous savez, lorsqu'on a organisé samedi les assistantes maternelles, c'est des particuliers employeurs, ce qu'on appelle les nounous qui n'ont pas de gros salaires, y compris qui fluctuent, c'est l'assurance chômage qui fait le complément, pour être très simple, hein, pas rentrer dans une grande technique, elles sont venues trouver la CGT pour organiser leur manifestation. Et là, c'est bien une catégorie très précaire. Donc elle voit bien qui également défend et peut aider à faire entendre les précaires et leurs revendications.
Et Roland Quayrol,
y compris, il y en a certaines qui se syndiquent aujourd'hui.
Alors Roland Quayrol, cette journée d'aujourd'hui, selon vous, et ce moment dans lequel on est effectivement, est-ce que c'est un tournant de cette crise-là, selon vous? Est-ce qu'il y a un outil pour sortir de la crise quand une mini-convergence, pour l'instant, on va l'appeler comme ça, se fait? Est-ce qu'on y voit plus clair ce soir, selon vous, qu'on y voyait clair hier soir?
On voit qu'il y a un certain nombre de centaines de gilets jaunes qui ont accepté de faire cause commune avec la CGT, ce que nous ne savions pas exactement. Mais on voit aussi, on vient d'en entendre un, ceux qui disent c'est pas pareil, et même on n'a pas envie d'être avec eux. Et ça existe de la même façon qu'il y a des gens de courant, je le disais tout à l'heure, extrêmement différents. Des fois les programmes se ressemblent.
Et ceux qui se présentent à une élection, ceux qui ne se présentent pas à une élection,
et des fois les programmes se ressemblent entre formations. Mettons, Marine Le Pen a dans son programme social plein de revendications qui sont héritées de celui de la CGT. Ça ne veut pas dire qu'il y a une convergence possible. Il faut faire extrêmement attention. C'est pas parce que des revendications sociales sociale devient d'une certaine façon évidente à ceux qui veulent être les porte-voix des travailleurs, qu'on peut imaginer qu'ils vont se retrouver au coude à coude demain. C'est ça aussi qu'on voit là, c'est qu'il n'y a pas une espèce de mobilisation cumulative qui se produit avec le sentiment que c'est celle-là qui pourrait sortir de la crise. De la même façon que c'est pas forcément très clair pour tout le monde pourquoi la CGT ne participe pas aussi au débat national. Pourquoi choisir les endroits où on fait débat et pourquoi refuser des endroits où il y a quand même des dizaines, des centaines de milliers de gens s'expriment avec qui vous pourriez débattre.
Roland Carole, parce qu'ils font un pari. Grand débat. Si le grand débat est déceptif, il faudra bien un réceptacle derrière et un printemps social, on verra bien. C'est le pari qui est fait, en tout cas, par François Ruffin, par Jean-Luc Mélenchon, par la CGT. S'il n'y a pas d'issue favorable...
On s'occupe de questions sociales et syndicales, donc...
C'est le pari que vous faites.
C'est vous qui vous englobez avec certaines forces politiques.
Vous ne rentrez pas, parce qu'il y a eu jonction aujourd'hui, c'est intéressant.
Il y a eu soutien de forces politiques, comme il y a eu du temps la loi travail, comme il y a eu auparavant.
Je vous explique, juste ce que qu'on m'explique chez les Insoumis, c'est qu'on fait le pari, on sait que c'est pas très mobilisateur pour l'instant, mais on fait le pari que le grand débat n'aboutira à rien, qu'il sera une déception à la fin, et que derrière, il faudra rassembler tous ceux qui ont été déçus par un débat qui échouerait, avec des solutions trop faibles. Et à ce moment-là, tout est possible, y compris la dissolution qui est réclamée par Jean-Luc Mélenchon, toujours de l'Assemblée nationale.
C'est pas dans nos slogans, ça.
Dans ceux des Insoumis, des Gilets jaunes, si.
Non, mais l'idée d'un grand débat qui échouerait, effectivement, c'est pour ça que vous avez un véritable débat. Vous nous avez dit que vous êtes en train de mettre en place, non?
Oui, mais comment vous voulez que ce débat réussisse lorsque d'entrée est posé en règle du jeu, qu'on ne touchera pas la politique qui est menée? Et c'est bien ce qui est vécu aujourd'hui. Lorsqu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, ça se traduit depuis le 1er février par une hausse de prix dans les supermarchés, ça frappe directement les plus modestes. Lorsque les péages augmentent, ça frappe aussi les plus modestes. Lorsque l'autorité de régulation d'électricité donc prône une hausse près de 6% des tarifs, voilà, on m'expliquait, moi, comment, si on n'augmente pas les salaires, et pas une tour de passe-passe où c'est les salariés qui, à travers la prime d'activité, paient d'autres salariés payés au SMIC. Voilà, si on change pas, de logiciel, de logique politique et économique, forcément, il ne peut pas y avoir de solution. Oui, on est sur un affrontement social majeur. Ça, j'en conviens. Et donc, c'est pas par des tours de passe-passe et des mesurettes. Voilà pourquoi ce grand débat, lorsqu'on dit on ne touchera pas les réformes, on ne touchera pas les paramètres, il ne peut que échouer. Et la permanence du mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement social, avec ce qui se passe aujourd'hui et qui va se développer dans les semaines à venir, ça illustre également.
Et en attendant, et ce sera la dernière question, est-ce que mardi prochain, il y a donc un nouveau mouvement, puisqu'il était censé y avoir un pas hebdomadaire, ou est-ce que cette mobilisation d'aujourd'hui vous fait dire qu'on réfléchit différemment? Ou est-ce qu'il y a un nouveau rendez-vous, là, mardi prochain?
Mardi prochain, il y aura des rendez-vous, mais c'est pas obligatoirement la grève. On a donc acté, demain, on a une réunion de la direction confédérale qui va donc affiner le contenu de ces rendez-vous.
Martinez dit mi-mars, je crois, la prochaine. Hein,
mi-mars. Il y a une journée d'action qui sera mi-mars, oui. Donc,
c'est aussi la fin du débat.
Qui a fait du débat. Hasard ou pas, mais au final. Donc, d'ici là, effectivement, donc, pour nous, chaque semaine, il est important de faire entendre la voix des citoyens et des salariés.
Et merci à tous. Merci encore.